VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Dakar, 15h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre les djihadistes dans le Sahel. Au Mali, les FAMA, les forces armées maliennes, annoncent avoir neutralisé des dizaines d'adversaires et réussi à libérer une trentaine de ses soldats lors de la contre-offensive lancée après la double attaque du 30 septembre contre les bases militaires maliennes dans le centre du pays. Plus de détails avec notre correspondant Kassim Traoré.
C'est pour faire le point de l'offensive en cours menée par les forces armées maliennes FAMA et leurs partenaires que le commandant du théâtre centre de l'opération Dambé s'est adressé à la presse, colonel-major Oumar Diara.
À peu près 80 ennemis neutralisés, une centaine de blessés, des matériels détruits et un important pôle logistique de 35 fûts de carburant détruits. Côté amis, 40 morts, 36 rescapés, dont 17 évacués. Le bilan des portés disparus est revu à la baisse avec un chiffre de 27 militaires tout au plus.
Général Abdramane Babi, chef d'état-major général adjoint des armées du Mali.
Nos frappes nous auraient permis de neutraliser des acteurs de premier plan, notamment au niveau de Ansarul Islam, avec des noms qui ont été évoqués comme le cas de Amadou Boukari Diko, dit Jafar Diko, donc qui a priori aurait été neutralisé, ainsi que Ousmane Boli dit Oumi.
Selon les responsables des FAMA, les opérations offensives antiterroristes en cours vont se poursuivre avec le soutien de leurs partenaires et de nouvelles dispositions sécuritaires seront prises. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, découverte d'exactions dans une autre école coranique de Kaduna dans le nord du pays. Près de 150 élèves, dont 22 filles, y auraient subi des sévices. Au total, plus de 1000 talibés. Des étudiants inscrits dans des écoles coraniques ont été libérés en un mois par les forces de sécurité. Les détails avec Gilbert Tamba à Abuja, la capitale fédérale nigériane.
C'est la quatrième opération de ce type en un mois effectuée par la police nigériane. Les conditions de captivité des personnes libérées n'étaient pas encore claires, mais contrairement aux autres écoles, au moins 22 des captifs nouvellement libérés étaient des femmes. Selon la police de l'État de Kaduna, les captifs avaient été enchaînés, battus et abusés sexuellement. Des abus similaires ont été signalés dans d'autres centres de torture récemment découverts à Katsina et Kaduna au cours du mois écoulé. Les centres de torture convertis en écoles islamiques sont très répandus dans le nord du Nigeria, majoritairement musulmans. Les propriétaires de ces centres prétendent enseigner le Coran aux étudiants, mais les soumettent plutôt à des abus physiques au nom d'une réhabilitation morale. Une de ces écoles a été découverte la semaine dernière dans la ville natale du président Muhammadu Buhari. Les personnes libérées comprennent des enfants âgés à peine de 7 ans. Dans le pays, les gens se demandent combien y a-t-il encore de ce type de centres de torture qui restent encore cachés. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Politique en Côte d'Ivoire, à moins d'un an de la prochaine élection présidentielle, la bataille politique fait rage entre le RHDP, le Rassemblement des Oufouettis pour la paix et la démocratie du président Alassane Ouattara et le PDCI-RDA de son ex-allié, l'ancien président Henri Konan Bédié. Le reportage d'Aïcha Diarra.
On va libérer Mangoua, plus haut, Bédié est plus haut, plus bas, Alassane est plus bas. Tels sont entre autres les chants qui constituent l'ambiance de ce méga meeting du PDC-RDA, un meeting qui plante le décor de la réalité politique en Côte d'Ivoire. Le mercure monte et les meetings s'enchaînent. On se croirait à une campagne présidentielle. À ce dernier meeting du PDCI-RDA étaient présents les partisans et les barons du FPI Laurent Gbagbo et ceux de Guillaume Soro qui, depuis un certain temps, démontrent un intérêt commun particulier. Tout porte à croire que des alliances sont scellées uniquement pour faire chuter le RHDP. Henri Konan Bédié est le président du PDCI-RDA.
PDCI-RDA, ses alliés et ses partisans sont plus que jamais déterminés pour reprendre les rênes de ce pays.
Pendant que le RHDP se proclame héritier idéologique de Félix Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié considère que seuls sont héritiers ceux qui ont refusé de s'allier au RHDP unifié.
Que les vrais et seuls disciples de Félix Houphouët-Boigny sont les militants et militantes qui ont protégé et protègent la maison père du père. le PDCI-RDA.
Chacun a son point de vue sur ces alliances de la politique ivoirienne. Selon Traoré Moussa, ces alliances ne sont faites que pour des intérêts personnels et non ceux de la Côte d'Ivoire.
Bon, vraiment, les alliances, là, je ne vois pas les fondements, je ne vois pas la base, quoi. Tout, bon, c'est fait intérêt personnel. Bon, quand ils vont avoir la place après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein.
La politique n'est pas l'affaire de tous, tel que Soumaro Ahmed, transporteur, qui lui préfère aborder des sujets relatifs à son activité professionnelle.
La vie politique, sincèrement, moi, je n'ai rien à dire, sincèrement. Moi, je suis un transporteur, c'est que moi, il voulait que nous nous améliorer. La route, nous, on nous fatigue vraiment. Tu as papier, tu n'as pas papier, c'est la même chose là. Hop, t'en fais papier là, c'est pour être libre.
Pour l'heure, Yamoussoukro, capitale administrative de la Côte d'Ivoire, est objet de convoitise pour le RHDP à cause de son électorat qui, à la base, est PDCI-RDA. Ce dernier ne compte pas non plus laisser son électorat à son adversaire politique, le RHDP. Donc, il n'hésite pas à montrer sa force de frappe politique dans son fief, comme l'a démontré ce dernier meeting qui a réuni des milliers de participants. Aïcha Diara Abouaké pour VOA Afrique.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
En République démocratique du Congo, plusieurs centaines de protestataires ont manifesté ce lundi à Kinshasa contre la corruption dans le pays. Un rassemblement à l'appel du CLC, le Comité laïque de coordination, un collectif catholique soutenu par l'opposition au nouveau président Félix Tshisekedi. Le CLC avait joué un rôle de premier plan début 2018 dans des marches étouffées dans le sang pour obtenir le départ de l'ex-président Joseph Kabila. La manifestation d'aujourd'hui est la première du CLC sous le mandat de l'ancien opposant Félix Tshisekedi, investi président en janvier. Elle n'a pas drainé autant de monde que fin 2017, début 2018, lorsque ce collectif appelait à des manifestations contre Joseph Kabila. Les protestations de ce lundi interviennent après l'affaire dite des 15 millions de dollars, le premier grand dossier de corruption présumé depuis l'investiture le 24 janvier du président Tshisekedi. Afrique australe, élection en Botswana, la population se rend aux urnes mercredi pour des élections générales d'une âpreté inédite dans l'histoire du pays, considérée de longue date comme une des démocraties les plus solides du continent africain. Contre toute attente, l'ex-président Yann Kama a pris la tête d'une fronde contre son successeur Mokgweetsi Masisi, alors que c'est lui-même qui avait installé l'actuel chef de l'État dans le fauteuil présidentiel. Un an après avoir quitté le pouvoir, M. Kama a claqué la emmée la porte du BDP, le Parti démocratique du Botswana, au pouvoir en accusant le président Masisi de dérive autoritaire. L'ex-leader a même appelé publiquement à voter pour la coalition pour un changement démocratique, UDC, principale formation de l'opposition. La querelle a pris des proportions telle qu'elle fragilise la position électorale du BDP qui dirige le pays depuis son indépendance en 1966. Et puis en France, la justice française doit rendre ce lundi sa décision concernant un ex-ministre du Burundi et son épouse, accusés d'avoir exploité pendant 10 ans un Burundais chez eux en région parisienne. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Ancien ministre de la Justice puis de l'Économie au Burundi, Gabriel Mpozagara a comparu le 9 septembre aux côtés de son épouse pour soumission à un travail forcé et à des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité. Le couple a clamé son innocence. À la barre, méthode Cindy Yagaya, un ancien cultivateur burundais de 39 ans, a affirmé travailler 19 heures par jour, faisant toutes les tâches ménagères de la maison, le jardinage et s'occupant d'un des fils du couple qui souffre de handicap. Il a raconté dormir au sous-sol dans la buanderie et se laver avec un seau d'eau. Son passeport avait été confisqué par ses employeurs, a-t-il dit. La procureure a requis 3 ans de prison, dont un ferme. L'avocat de Monsieur et Madame Mpozagara a insisté sur le manque de preuves dans ce dossier. En 2007, le couple avait déjà comparu dans ce même tribunal. Ils avaient été condamnés puis relaxés en appel dans un dossier similaire qui concernait 2 jeunes nièces venues du Burundi. Le tribunal correctionnel de Nanterre doit rendre sa décision aujourd'hui lundi.
Et pour terminer, processus de paix au Soudan du Sud, l'ex-chef rebelle sud-soudanais Riek Machar a annoncé dimanche vouloir un nouveau report pour la formation d'un gouvernement d'union nationale avec le président Salva Kiir, estimant que toute précipitation conduirait à la catastrophe et à la reprise de la guerre civile. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.